Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média au menu. Média et culture au sens large. La thématique du jour, et c'est un hasard de la programmation, oscille entre histoire et nostalgie. On va revenir sur le passé, les années 80, les années 90 et les années 2000, dans des genres, vous l'entendrez, totalement différents. Pour rester dans l'ordre chronologique, vous retrouverez évidemment Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences, Bruno Donnet pour ses télescopages, le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez et en fin d'émission, Marc-Antoine Lebré et ses stories. Notre infomédia revient sur la déferlante médiatique de l'affaire DSK. C'était il y a 11 ans, son arrestation à New York, les images du patron du FMI menotté qui ont fait le tour du monde. Un documentaire du journaliste Julien Belvert revient ce soir sur l'affaire du Sofitel, vue par les médias français et les médias américains, avec un traitement radicalement différent. Et en plus des archives, certains journalistes qui ont couvert l'affaire, pardon, témoignent aujourd'hui. Vous entendrez à quel point les perceptions ont évolué en 11 ans. Nos invités ensuite, Cadmerade, qu'on ne présente plus, et le réalisateur Antoine Chevrolier pour Oussekin, une série en 4 épisodes qui s'empare d'un fait divers terrible survenu en 86, la mort de Malik Oussekin dans la nuit du 5 au 6 décembre, en marge des manifestations d'étudiants contre la loi de Devaquet. Et puis enfin, beaucoup plus joyeux, le comédien Jacques Gamblin pour une comédie On sourit pour la photo avec Pascal Arbillot, premier film de François Uzon, film qui a reçu le prix spécial du jury au Festival de l'Alpe d'Huez, la dernière édition en 2022. Il sort aujourd'hui, le film, pas Jacques Gamblin. Lui, il sera dans notre studio, donc dans vos oreilles. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Lise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
La première prise de parole de Nonce Paolini, l'ex-patron de TF1 dans l'affaire PPDA. Plus joyeux, le tournoi à destination reste sur France Télévisions. Gaumont lance sa plateforme de streaming d'un genre très spécial, vous verrez. Sylvie Tellier, elle, va-t-elle quitter Miss France? C'est en tout cas la rumeur qui circule. Elon Musk, lui, veut réintégrer Trump sur Twitter, hein, pas la présidence. Et puis un documentaire très touchant sur la championne Sarah Abitbol, ce sera en fin de journal.
Mais d'abord, les audiences télé, qu'ont regardé les Français hier soir le podium?
Ils ont regardé TF1, Koh-Lanta évidemment, 3 600 000 téléspectateurs, 16,6% de part d'audience. Alors en nombre de téléspectateurs, c'est le plus petit score de la saison pour Koh-Lanta. Deuxième, France 3 avec Crime Parfait, 3 510 000 téléspectateurs, donc c'est moins de 100 000 de moins que TF1, hein, c'est vraiment coude à coude, 16,1% de part d'audience. Et puis troisième, sur France 2, vous étiez 2 950 000 téléspectateurs à souhaiter un joyeux anniversaire à Renault, 15%. De part d'audience, c'était un concert pour ses 70 ans.
Europe 1 Culture Média.
À la une du journal des médias, Nonce Paolini réagit pour la première fois à l'affaire PPDA.
L'ancien patron de TF1 a pris la parole dans l'émission de Mediapart hier soir. À l'air libre était diffusée à 19h, émission où 20 femmes ont témoigné des violences sexuelles dont elles accusent PPDA. C'était sa première réaction, annonce Paolini, depuis le début de l'affaire. Il est interviewé par la journaliste Marine Turchi.
Si j'ai répondu à votre demande, ce que j'ai refusé à beaucoup d'autres, c'est parce qu'elles viennent témoigner chez vous et que je veux leur dire que leur souffrance ne peut laisser indifférents personnes, et en particulier pas moi, ni comme homme, ni comme ancien dirigeant.
Sa parole était surtout attendue aussi pour répondre à une question. Était-on au courant à TF1? Des témoignages laissent entendre que certains cadres auraient fermé les yeux sur les agissements présumés du présentateur, star de la chaîne à l'époque. Nonce Paolini, lui, a été DRH de TF1, puis PDG. Alors c'était au moment où PPDA quittait la chaîne, en 2008.
Si dans une entreprise comme TF1, on l'avait su, évidemment, des sanctions auraient été prises. On ne pouvait pas mettre en cause la réputation d'une entreprise comme celle-là, cotée en bourse. Il faut quand même rappeler une chose. Tous les témoignages disent que c'était dans son bureau après la conférence de rédaction et après 21h. À 21h, à TF1, il n'y a plus personne. Donc, qui pouvait savoir ce qui se passait véritablement dans ce bureau? Ça n'est pas un système qu'il faut dénoncer. Il n'y a pas de système. Il y a simplement quelqu'un qui s'est comporté de façon odieuse avec des femmes, dans différents contextes, sans que personne ne puisse le savoir, puisque ces femmes ne s'exprimaient pas.
L'émission est en accès libre sur le site de Mediapart. A précisé que Patrick Poivre d'Avor, lui, a décliné l'invitation et a rappelé via son avocat qu'il conteste toute violence sexuelle ou non à l'égard des femmes qui l'ont accusé. Il reste présumé innocent.
Le tournoi des Six Nations va continuer d'être diffusé sur France Télévisions.
En exclusivité jusqu'en 2025 au moins, le groupe public diffusera ses compétitions des équipes féminines et masculines de rugby. L'accord vient d'être prolongé et France Télé ne s'arrête pas là. Seront aussi diffusés en exclusivité 3 matchs du 15 de France cet automne, ceux face à l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon. Gros succès d'audience en perspective.
Vous nous donnez les chiffres d'audience.
Évidemment.
Alors, Sylvie Tellier serait sur le point de quitter la société Miss France.
C'est ce qu'affirme Le Parisien, qui est souvent bien renseigné. Son départ serait en train d'être négocié. La principale intéressée a simplement indiqué être toujours chez Miss France, très investie sur les sujets. Alors qui pour la remplacer ? Eh bien, Le Quotidien affirme que la production songe à confier le poste de directrice générale à une autre ancienne Miss France, Cindy Fabre, élue en 2005.
Gaumont lance une plateforme de streaming, plateforme baptisée Gaumont Classique.
Une plateforme d'un genre très spécial. Seuls des films français en noir et blanc sont disponibles. Mais il y en a quand même plus de 200 visionnés en illimité grâce à un système d'abonnement. C'est 5 euros par mois, 50 si vous prenez l'année complète et c'est sans engagement. Alors à quoi ça ressemble ? Je suis allée faire un petit tour sur le site. C'est par catégorie, comme souvent sur les plateformes de streaming. Là, celles qui sont mises en avant, c'est Collection Sacha Guitry, Version Restaurée, Rareté. Ça, c'est intriguant. Paris, Ville Lumière et une catégorie totalement d'actualité, Collection Festival de Cannes. Vous pouvez aussi sélectionner un film par genre, des comédies, drames, policiers, etc. Par décennie aussi, années 30, 40, 50 ou 60. Oui, c'est du noir et blanc, je le rappelle. Une manière, selon Gaumont, de donner une nouvelle vie à des films peu diffusés à la télévision. Et c'est vrai que la télévision n'aime pas trop le noir et blanc. Même les archives des documentaires, aujourd'hui, sont très souvent colorisées.
C'est vrai, ça c'est en couleur. La série de France 2, Un si grand soleil, fait une pause.
À partir du 30 mai, plus de diffusion du feuilleton juste après le journal de 20h, mais à la place des modules autour des élections législatives. Il faudra donc attendre jusqu'au lendemain du second tour, le lundi 20 juin, pour retrouver la série.
Elon Musk est prêt à réactiver le compte Twitter de Donald Trump.
Oui, c'est ce qu'il a déclaré en marge d'une conférence de presse, car le multimilliardaire désapprouve l'exclusion définitive de l'ancien président. Il parle d'une décision moralement mauvaise et complètement stupide, avec comme argument que non seulement ça n'empêche pas Donald Trump de s'exprimer. Il a d'ailleurs créé son propre réseau social, mais ça renforcerait aussi sa popularité auprès de l'électorat de droite. Bon, on peut nuancer quand même son point de vue, puisque le réseau social de Trump, Truth Social, c'est 500 000 utilisateurs, Twitter 430 millions, donc c'est quand même pas la même portée quand on s'exprime sur Twitter. Puis au-delà du cas de Trump, ça nous donne une idée de la future politique de modération d'Elon Musk. Je vous rappelle qu'il vient de racheter Twitter. Il dit vouloir réserver les exclusions définitives aux faux comptes et il plaide plutôt pour, pour bannir temporairement ou pour rendre invisibles les tweets ou avec une portée en tout cas très limitée. Donald Trump, je le rappelle, a été banni de plusieurs réseaux sociaux. C'était en janvier 2021 pour risque d'incitation à la violence suite à l'invasion du Capitole par ses partisans.
Et on termine avec le focus programme du jour. France 2 diffuse ce soir le documentaire Un si long silence.
C'est un documentaire adapté du livre de Sarah Abitbol, championne de patinage artistique, qui a révélé avoir été violée à l'âge de 15 ans par son entraîneur. Un témoignage qui avait provoqué un raz-de-marée médiatique et dénoncé tout un système. Ce livre, Sarah Abitbol l'a écrit avec Emmanuel Anison, grand reporter à l'Obs qui réalise ce documentaire. Elles ont reçu une quinzaine de propositions pour l'adapter, notamment en film, mais si elles ont choisi ce format de documentaire, c'est parce qu'il fait sens.
Sarah a parlé, après avoir vu elle-même un film, celui de Flavie Flamand, qui parlait des agressions qu'elle avait subies de la part du photographe David Hamilton. Et voilà, l'image, ça atteint un autre public que le livre. Et on avait envie de prolonger cette prise de parole, de la rendre plus forte. L'idée du service public aussi était assez évidente. Et on a en plus la chance qu'il soit diffusé en prime time. Donc c'est exactement ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire atteindre le public le plus large et le plus familial possible. Parce qu'on sait que voir un documentaire comme ça, ça peut déclencher de nouvelles prises de parole.
Et le documentaire mêle archives et témoignages très touchants de ses proches. Son ancien compagnon de glace, notamment Stéphane Bernadis, témoigne pour la première fois. C'est la première fois parce qu'il a été bouleversé après la lecture du livre. Sarah Abitbol, elle aussi, retrace tout son parcours depuis son enfance et raconte à nouveau son traumatisme à 15 ans. Et même si c'est elle qui voulait faire ce documentaire, ça n'en reste pas moins difficile aujourd'hui encore de témoigner.
C'est paradoxal, en fait, cette exposition médiatique, ça la porte. Parce que le plus important pour une victime quand elle parle, c'est d'être écoutée. Donc là, Sarah a été extraordinairement écoutée. Mais en même temps, comme toutes les victimes, en fait, lorsqu'elles parlent, elles revivent leur traumatisme physiquement. Le corps se souvient et le corps à chaque fois se remanifeste dans sa douleur. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on a commencé à aborder la partie plus difficile à partir de ses 15 ans, Elle a commencé à de nouveau avoir des cauchemars la nuit, à avoir le corps qui brûle, à avoir des maux de tête, elle n'a pas allé bien du tout, quoi.
Et son témoignage est à retrouver dans Un silence diffusé ce soir à 21h05 sur France 2, réalisé par Emmanuel Anison, que vous venez d'entendre, et Rémi Burkel, avec donc la participation de Sarah Abitbol.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription, elle est gratuite, c'est sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, sur Europe 1, notre info média du jour, retour sur le traitement médiatique de l'affaire DSK ce soir sur TMC. Les images des médias américains et des médias français, avec le commentaire aujourd'hui de ceux qui avaient couvert l'affaire à l'époque, il y a 11 ans. 21h Média, le crash DSK. Nous sommes avec son auteur Julien Belvert, en direct dans ce studio. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Cette arrestation a fait l'effet d'une bombe. Le 15 mai 2011 à New York, Dominique Strauss-Kahn, directeur du Fonds monétaire international, est arrêté, accusé d'avoir la veille agressé sexuellement une femme de chambre dans son hôtel de luxe. L'affaire DSK devient une affaire internationale, politique et médiatique. Les médias du monde entier suivent l'arrestation et ses rebondissements comme un feuilleton. En France, les journalistes sont bousculés dans leur manière de faire leur métier. Et 11 ans plus tard, certains journalistes qui étaient sur place ou qui avaient enquêté sur DSK bien avant l'affaire du Sofitel témoignent dans un documentaire percutant diffusé ce soir sur TMC. Bonjour Julien Belvert.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste, on peut vous voir chaque soir sur TMC dans l'émission Quotidien. Le rendez-vous, c'est le 19h30 Média. Et là, vous signez donc ce doc, 21h Média. Vous donnez les horaires, vous avez bien raison. 21h Média, le crash DSK. Vous aviez réalisé en septembre dernier 21h Média, le 11 septembre 2001. Pourquoi DSK en deuxième numéro ?
Parce que moi, j'avais envie de faire quelque chose de très politique. Donc, c'était l'un des sujets de ces 10 dernières années qui s'était imposé dans les médias. On cherchait quelque chose de très fort. On a un peu scanné 10 ans d'actu. Et le sujet DSK s'est imposé assez naturellement. Au début, j'avais pensé au 21 avril 2002, mais Étienne Carbonnier, qui fait le canap, a fait son année 2002.
C'est vrai. Il était venu en parler ici.
Il a beaucoup parlé de l'élection et de Jean-Marie Le Pen. Donc, on s'est dit qu'on ne pouvait pas le refaire une deuxième fois. Et on a choisi DSK.
Voilà, pour les plus jeunes, le 21 avril 2002, c'est quand Lionel Jospin ne s'était pas qualifié contre toute attente pour le second tour. On revient à l'affaire DSK. Elle fuite dans les médias américains le 14 mai 2011, 22h heure locale. En France, il est 4h du matin. Comment les médias français, de quelle manière prennent-ils l'antenne au matin du 15 mai, hein, ce dimanche matin ?
Alors ça se passe dans la nuit aux États-Unis et nous, avec le décalage, ça arrive quelques heures plus tard. C'est au petit matin, c'est un dimanche matin. Moi, je me souviens où j'étais le jour où c'est arrivé.
Moi aussi.
Voilà, c'est un peu comme le 11 septembre, on se souvient tous de l'endroit où on était. Bah, DSK, c'est pareil, c'est révélé par un journal américain, un tabloïd, le New York Post. C'est repris à la télévision par CNN et très vite, évidemment, les rédactions parisiennes sont réveillées en pleine nuit. Ruth Elkrieff nous le raconte dans le documentaire. Et là, on est parti pour une folie médiatique qui va durer des semaines.
Pendant plusieurs jours, c'est la stupéfaction en France. Vous diffusez des micro-trottoirs de l'époque. On voit les Français persuadés qu'il s'agit d'un coup monté. L'homme de la rue, la femme de la rue, aussi bien à droite qu'à gauche. D'ailleurs, comment réagit la classe politique et en particulier le PS ?
Bah, tout le monde pense, une grande partie en tous les cas du PS pense que c'est un coup monté. Personne n'y croit. Et surtout, les mots vont pour DSK et on ne pense même pas à la victime, on l'évoque à peine. Ça va durer pendant plusieurs heures comme ça en France. C'est les Américains qui vont s'intéresser plus à la victime que nous. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème avec nos yeux de 2022. Regarder le commentaire de cette affaire par les journalistes, par les hommes politiques à l'époque, c'est assez effrayant.
Oui, il y a beaucoup de gens qui disent « je pense à lui et à sa famille, on se souvient, vous l'avez diffusé, je ne vais pas le repasser là, ici ».
Ce sont les éléments de langage, oui, absolument.
Jean-François Kahn, l'ancien patron de Marianne, ami du couple, qui faisait une référence à un troussage de
domestique.
Et il ne trouvait rien là que de banal. Ces propos font bondir quand on les entend maintenant aujourd'hui.
Ces propos font bondir et surtout, on se rend compte qu'en fait, on a été devant un MeToo. Avant MeToo, c'était le premier scandale sexuel qui lie un homme politique d'importance. Et la France, les Français, les journalistes, les politiques ont regardé ça sans vraiment savoir ce qu'il se passait. Et 6 ans plus tard, il y a l'affaire Weinstein et tous les codes de ce scandale sexuel vont se retrouver 6 ans plus tard.
Ce qui est très intéressant dans votre documentaire, c'est qu'il y a le télescopage entre maintenant et il y a 11 ans et aussi entre l'Amérique et l'Europe et la France en particulier. Le crash DSK revient évidemment sur le traitement médiatique de l'affaire aux États-Unis. On le voit menotté sous les yeux de la presse, sous les caméras. Les tabloïds le surnomment le perv pour le pervers, avec un adjectif français pour bien montrer qu'il est loin d'eux. Sans aucun traitement de faveur en direction de l'accusé,
Les médias français, c'est différent. Racontez la manière dont ils réagissent
oui, les
à
médias,
ces images.
Le traitement médiatique américain et français est très différent. D'ailleurs, on le voit bien dans le documentaire, puisqu'on fait un parallèle au même moment. Aux États-Unis, on s'intéresse tout de suite à la victime. On essaie de savoir qui elle est. On accorde beaucoup plus de crédit à sa parole. Et DSK est dépeint tout de suite comme un... comme une personne qui a des relations compliquées avec les femmes. En revanche, en France, on n'est pas du tout dans cette optique-là. On parle très peu de Nafissatou Diallo, qui au départ, d'ailleurs, s'appelle Ophélia, c'est son nom d'emprunt. On sait très peu de choses sur Nafissatou Diallo. Et en fait, on ne parle que de l'avenir politique de DSK, que du scandale politique et médiatique. Et tous les ténors du PS à l'époque, que ce soit des hommes ou des femmes, n'ont de mots que pour DSK.
Il faut dire aussi que l'élection présidentielle se profilait.
Bien sûr, on ne pense qu'à ça.
Il était en tête des sondages.
Il était en tête des sondages. On est en 2011. Et il faut savoir que quelques mois plus tard, il y a la primaire socialiste. DSK est favori de la primaire, favori évidemment de la présidentielle. Tout le monde pense que ça va être le futur président. D'ailleurs, un chapitre du doc s'appelle DSK déjà président, parce que les médias l'ont porté à ce niveau-là.
Alors, c'est peu dire que les médias de l'époque partent en toupie, pardon pour cette expression un peu triviale. Il y a des journalistes qui avaient couvert l'affaire, qui témoignent devant votre caméra. Exemple, Apolline de Malherbe, envoyée spéciale sur place de BFM TV, et Gilles Boulot, à l'époque, il était correspondant aux États-Unis pour TF1. On est juste après la libération de DSK de prison, dans cette fameuse maison de luxe qui avait tant été commentée. Ils racontent le pied de grue devant la résidence du couple et confient leurs regrets.
Pour autant, un duplex sur deux, quand vous êtes, quand vous traquez, parce qu'il y a quelque chose d'une bête traquée, quand vous traquez la bête et que vous en êtes à dire ce qu'il a commandé comme pizza, c'est pas forcément ce qu'on a fait de mieux de ce point de vue-là. Et je pense que nous aussi, journalistes, on doit être capable de prendre du recul par rapport à ça. J'espère qu'on l'a fait.
En fait, moi j'ai un peu honte parce que pendant toutes ces années où j'étais aux États-Unis, je me suis enorgueilli de faire un journalisme propre. Et là, je me suis retrouvé à passer des heures sur un pliant, comme un pêcheur à la ligne, à traquer, à regarder Dominique Strauss-Kahn, que je connaissais peu, que j'avais vu deux fois au FMI, Anne Sinclair, une personne pour laquelle j'ai toujours une très grande estime. Et là, j'ai eu un moment de schizophrénie en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»
À votre micro, Routel Krief explique que cette affaire est un moment historique pour les chaînes d'information. C'est également votre analyse, Julien Belvert.
Ah bah oui, c'est un moment historique, c'est le premier gros breaking news qui va durer des semaines en fait, parce qu'on a oublié que cette affaire DSK, elle a commencé donc mi-mai, et elle va durer jusqu'à début juillet, pendant des heures et des heures, toute la journée, tout est retransmis en direct, même les chaînes nationales cassent leur antenne en journée pour retransmettre le procès, pour retransmettre les derniers rebondissements. C'est assez fou aujourd'hui.
Et avec l'affaire DSK, il y a deux syllabes qui font éruption, Twitter.
Twitter, bah oui, on découvre...
Et on découvre dans votre sujet, on voit le journaliste qui explique aux gens ce qu'est Twitter.
Exactement, on découvre ce réseau social qui va aider les journalistes en fait à transmettre des informations lors des audiences, puisque les téléphones sont en tous les cas on ne peut pas communiquer avec les téléphones, donc les journalistes sont à l'intérieur des salles d'audience, font des tweets pour informer de ce qui se passe, et généralement on est informé d'abord par Twitter et les tweets sont retransmis à la télévision. Ça paraît complètement archaïque aujourd'hui.
Vous disiez c'est presque un pré-MeToo. Il y avait des journalistes qui étaient comme des lanceurs d'alerte. À l'époque, on ne les écoutait pas. Vous les avez retrouvés, notamment Jean Quatremer. On continue de parler 21h Média, le crash DSK. On est avec Julien Belvert sur Europe 1. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Julien Belvert, journaliste média dans l'émission Quotidien. Mais là, il présente une spéciale. Ça s'appelle 21h Média, le crash DSK. Vous revenez sur l'affaire DSK, son arrestation. C'était le 15 mai, il y a 11 ans. Récit passionnant, celui de journaliste de Libération, Jean Quatremer. Pourquoi ? Parce qu'il revient sur la première affaire DSK en 2008 et non pas en 2011. Racontez, de quoi s'agissait-il ?
Alors, Jean Quatremer, il est journaliste pour Libération, déjà en 2007, donc un an avant cette histoire, il écrit sur son blog que DSK, il fait un portrait de lui, il écrit que DSK a un problème avec les femmes. Cette phrase va être reprise un peu partout dans le monde, sauf en France, où on lui reproche en gros de se mêler de la vie privée de DSK. Et un an plus tard, il y a l'affaire Piroska-Nagy, qui est une économiste qui travaille au FMI, qui accuse DSK de harcèlement. Et en fait, Jean Quatremer a toutes ces informations pour sortir le papier, pour sortir ce scoop, mais le journal Libération n'en veut pas. C'est Laurent Geoffrin à l'époque qui dirige le journal, qui lui dit en gros on ne se mêle pas de ces histoires. Donc lui, il est hyper frustré, Jean Quatremer, il nous le raconte hyper bien, et il va transmettre ces informations à un autre journal, le Wall Street Journal.
Vous avez raison, il le raconte hyper bien, Jean Quatremer.
À ce moment-là, j'ai ma source me dit il faut vraiment le sortir. Je dis ça sortira jamais dans le journal français, je ne peux pas le sortir sur mon blog. Donc, donnez tout à un journal américain qui, lui, va le sortir. Et c'est comme ça que ça fait la une, à ce moment-là, du Wall Street Journal, qui a quand même tiré à peu près 10 fois, 100 fois plus que Libération. Nous, on n'a pas voulu d'un scoop que le Wall Street a voulu. Donc, c'est à ce moment-là qu'on aurait dû, ça aurait dû faire une déflagration mondiale. Mais en France, ça n'a rien fait. Et donc là, c'était pour moi quelque chose de terrible en tant que journaliste de voir vraiment un grand journal américain. C'est pas rien, le Wall Street Journal, hein, qui reprend un scoop que j'avais. Après, j'ai donné des tas d'éléments d'information à des journaux américains qui m'ont appelé. Vous vous rendez compte, il n'y a pas un journal français qui m'a appelé. Pas un. Tout le monde a regardé ailleurs.
Quand Jean Quatremer apprend l'arrestation de DSK, il vous le raconte, il dit qu'il est soulagé. Il a prêché seul à l'époque dans le désert médiatique. Comment expliquez-vous, si tant est que ça puisse expliquer avec 11 ans de recul, cette frilosité à l'époque des médias français ?
Parce que je pense qu'à l'époque, ce n'est pas dans la culture française. On ne s'intéresse pas à la vie des hommes politiques. On n'a jamais eu vraiment de scandale sexuel lié à un homme politique, contrairement aux États-Unis, notamment avec Bill Clinton. Et du coup, les Français sont totalement, enfin, les journalistes, les médias français sont totalement désemparés, ne savent pas quoi faire de ce sujet. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'erreurs qui sont commises à l'époque.
À l'époque, on attendait la parole de Dominique Strauss-Kahn dans les médias. Une fois évidemment qu'il a été libéré et qu'il est rentré en France, eh bien, c'est la journaliste Claire Chazal qui va obtenir ce scoop. C'était aux 20h de TF1. Le 18 septembre 2011, interview très regardée, mais aussi très commentée et très critiquée, Claire Chazal étant une amie du couple.
Je me souviens de ce sentiment qu'on avait tous, comme ça, à regarder cette interview avec ce discours tout près. Grand malaise, grande gêne.
Claire Chazal, c'était une interview d'une copine. T'es sympa. Sympa, voilà. Tout arrivé un petit truc, là, etc. C'était vrai, non, pas vraiment, etc. Oui, oui. Mais c'est le degré zéro du journalisme.
On a reconnu les voix de Jean Quatremer et de Routel Krief. Vous avez regardé toute l'interview en entier.
Ah oui, il faut la revoir, cette interview. On passe de larges extraits ce soir. Et en effet, on se rend compte que tout a été écrit à l'avance. Alors peut-être pas les questions de Claire Chazal transmises à DSK. Elle l'a démenti, d'ailleurs, je crois.
Alors, elle l'a démenti, puisque vous en parlez. Voilà. Elle a démenti sur Europe 1. C'était dans l'émission En balade avec, présentée par Pascal Clark. C'était en janvier 2021. La journaliste du Monde à l'époque, Raphaël Baquet, affirmait dans un doc Netflix que Claire Chazal avait préparé l'interview de DSK avec Anne Sinclair. La réponse de Claire Chazal, certes, elle était amie d'Anne Sinclair. Elle avait rencontré le couple avec le rédacteur en chef du 20h, Germain Dagonet, quelques jours avant l'interview. On écoute Claire Chazal sur Europe 1.
Je conteste beaucoup le fait qu'on m'accuse de ça sans savoir et sans m'avoir demandé au moins ma version. Nous nous sommes donc vus et nous avons convenu d'une chose, une seule chose, textuellement, il faut que toutes les questions soient posées. Voilà, c'est tout. Les questions après, je les ai rédigées avec Germain, Cyril Onfray, etc. Elles n'ont jamais été transmises à quiconque, ni à Anne, ni à Dominique, ni à l'entourage.
Julien Belvert, vous qui avez vu et revu l'interview, est-ce que toutes les questions ont été posées selon vous ?
Alors oui, je pense que toutes les questions ont été posées, mais cela ne suffit pas dans ce genre d'exercice parce que DSK était tellement préparé qu'il avait préparé toutes les réponses. Donc il fallait le relancer, le pousser un petit peu dans ses retranchements. Quand il brandit le rapport du procureur en disant qu'il a été blanchi, ce n'est pas la vérité. Donc si on a une fine connaissance du dossier, on peut le relancer sur ce genre de sujet, ce qui a donné en effet une espèce d'interview un peu bizarre. Elle explique très bien d'ailleurs Routel Krief, on était tous mal à l'aise face à ça et on l'est encore plus 11 ans plus tard.
J'imagine que vous avez lancé une invitation à Claire Chazal pour qu'elle s'explique.
Oui, on a lancé une invitation à Claire Chazal, mais elle s'était déjà expliquée à votre micro sur Europe 1. Elle a déjà été attaquée notamment par des journalistes du Monde dans le documentaire de Netflix. Je pense qu'elle n'avait pas très envie de revenir là-dessus.
Comment avez-vous travaillé, ou la question c'est un chiffre, combien d'heures avez-vous visionné pour obtenir ce résultat?
Alors le doc fait 1h20, mais pour arriver à 1h20, on a dérushé 350 heures de programmes aux États-Unis, de programmes en France. Donc ça, on a une super équipe doc chez Bangoumi qui travaille sur Quotidien et sur toutes les émissions de la boîte de prod. Mais je travaille aussi avec une journaliste qui est top, qui s'appelle Emma Ellie, qui m'aide tous les jours sur le 19h30 Média, et c'est elle qui a eu en charge ce doc avec moi. et grâce à elle, ce doc est ce qu'il est aujourd'hui.
Je n'ose pas imaginer le budget café. Merci beaucoup, Julien Belvert. 21h Média, le crash d'ESK, c'est ce soir à voir sur TMC à 21h15, juste après Quotidien.
Sans pub, hein, tout de suite, sans... on enchaîne.
Oui, parce qu'on ne sait jamais trop à quelle heure vous rendez l'antenne
tout
Quotidien.
Tout de suite, mais l'heure sera à l'heure ce soir, vous verrez.
Exprès, ouais, exprès pour vous. Traitement de faveur. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Merci Philippe.
Dans un instant, Cadmerade et le réalisateur Antoine Chevrolier. C'est une nouvelle série qui arrive aujourd'hui sur Disney+, mais rien à voir avec des dessins animés ou Sekine, inspiré de faits réels. Série qui revient sur les événements tragiques de la nuit du 5 au 6 décembre 86 qui avait conduit à la mort de Malik Oussekine, jeune étudiant français d'origine algérienne. C'était pendant les manifs des anti-Devaquet. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Cadmerade.
Bonjour Philippe, ça va?
Il est
Philippe
en train d'essayer de mettre son casque.
J'essaie, mais comme d'habitude, comme je suis un ancien de la radio, je regarde toujours le côté gauche ou droite. Et j'ai vu marqué R, donc R c'est gauche.
Right. Je me suis fait avoir.
Je suis américain.
Comédien dans des rôles très divers, films comiques évidemment, mais aussi des rôles sombres dans des films, des séries. Vous êtes justement à l'affiche d'Oussekine, série en 4 épisodes sur Disney+, disponible à partir d'aujourd'hui. Série réalisée par Antoine Chevrolier. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous avez notamment réalisé des épisodes du Bureau des Légendes ou de Baron Noir, porté par Cadmerade Oussekine. Série qui s'empare d'un fait divers tragique survenu en 86, la mort de ce jeune étudiant Malik dans la nuit du 5 au 6 décembre en marge des manifestations d'étudiants contre la loi Devaquet. Cadmerade, vous incarnez l'avocat Georges Kijman qui avait défendu la famille attaquée de toutes parts, notamment par le ministre Robert Pendreau. Première question pour vous, Antoine Chevrolier. L'affaire Oussekine, pourquoi vous a-t-elle intéressé? Parce que cette série, il faut le dire, est l'histoire d'un fait divers, mais également d'une famille.
Tout à fait. Elle m'a intéressé tout simplement parce qu'elle n'avait déjà jamais été racontée. Et puis, très rapidement, en creusant un tout petit peu le sujet, je me suis rendu compte qu'elle racontait une page sombre de notre roman national. Donc, il était temps de s'atteler à cette histoire et de le raconter au cœur de la famille et de ce que la famille Oussekine a subi.
Avant que je demande à Cadmerade ce qui l'a passionné dans cette histoire, on va entendre la bande-annonce.
L'audience est ouverte.
Ça va être éprouvant, on le sait. C'est pas le moment de vous décourager.
Bouge pas, toi ! Bouge pas !
La vérité, c'est qu'il y a des gens qui nous en veulent d'oser réclamer justice. Ils veulent tout faire pour nous en empêcher. On doit rester unis.
Malik Oussekine, Oussekine, Oussekine.
L'affaire risque de prendre une ampleur sans précédent.
S'il vous plaît. Pas de provocation. Nous devons rester dignes.
Justice pour Malik !
Eh oui.
Il y a du gros son.
Ah, il y a du son. Mais...
C'est Cadmerade qui réagit. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire, Cadmerade, et plus précisément dans ce rôle de l'avocat Georges Kijman ?
D'abord, moi j'ai vu les épisodes comme tout le monde en avant-première, avant-hier. J'avais refusé de les voir sur mon petit écran. Voilà. Et j'ai trouvé extraordinaire. J'ai pris une claque, voilà, je vous le dis tout de suite. Il est en face de moi, Antoine, mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait de cette histoire, comment il l'a raconté, comment il nous la raconte. Et je trouve ça incroyable et c'est magnifique. Et heureusement que cette histoire va être vue aujourd'hui, parce que c'est, voilà, moi quand c'est arrivé. D'abord, j'ai l'âge de Malik Oussekine. Mm-hmm. Je suis né en 1964. J'avais 22 ans quand il a eu ce drame. Et donc, j'ai été marqué comme toute cette jeunesse, évidemment. Et quand Antoine est venu un jour me parler de la série, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Et qu'il m'a parlé d'incarner Georges Kijman, qui a défendu la famille. J'ai été honoré, j'étais surpris un peu. Bon, après, j'ai regardé, c'est vrai que j'avais pas trop de cheveux non plus comme lui, mais c'est pas que ça. Voilà ce qui m'intéressait, c'est la force de cette histoire, la force, les scénarios des épisodes qui sont racontés du point de vue de la famille, de l'intimité de la famille, de tout, comme il disait Antoine, tout ce qu'ils ont ressenti de ce drame, parce qu'on le connaît le drame, c'est comme Titanic, on sait comment ça va se terminer, sauf que là, on va découvrir encore de choses.
On le connaît sans le connaître, tout en le connaissant, parce qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre. Vous êtes né en 64, moi en 62. J'étais jeune journaliste actuel et j'ai couvert les manifs et je suis allé aux AG voir ce que les étudiants avaient à dire contre cette réforme Devaquet. Donc le souvenir est pour moi très, très, très précis dans ma tête. Vous avez rencontré Georges Kijman pour préparer ce rôle ?
Je devais le rencontrer. Il faut savoir que c'était en pleine pandémie. Georges Kijman étant un homme assez âgé. Moi, je ne voulais pas prendre le risque. Normal. D'abord, je n'ai pas embrassé mes parents pendant 2 ans. Donc, vous imaginez qu'on n'osait plus s'approcher des personnes âgées. Malheureusement, on n'a pas pu. Moi, j'aurais aimé, j'aimerais encore, parce qu'il est, encore avec nous, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était difficile. Je pouvais pas, on ne pouvait pas, il habite dans un appartement, on ne pouvait pas se retrouver à boire des coups. Ah, tiens, Georges, tout ça. J'aurais aimé. Puis surtout, j'ai envie qu'il voit le travail qu'on a fait, c'est important.
Alors, la série, une des arches narratives est centrée sur le combat de la famille pour obtenir justice. Et là, on se demande que veut la famille Ousekine. On a d'ailleurs l'impression que ce sont les avocats Georges Kejman et son collaborateur Maître D'Artevel qui les contactent plutôt que l'inverse.
Oui, oui, ça s'est effectivement comme, passé comme ça. C'est-à-dire que Mohamed Ousekine, qui lui était en Sicile au moment des faits, a reçu un message, puisqu'à l'époque, en fait, il y avait un système de messagerie de Maître D'Artevel. Ils ont été approchés effectivement par. Il y a eu des intermédiaires, mais en tout cas, très rapidement, ça a été Monsieur Kejman et Maître D'Artevel qui sont occupés de la famille.
Alors, Kat, vous jouez Georges Kejman, grand avocat, ami de François Mitterrand. Il est aussi devenu ministre de la Culture, mais c'est une autre histoire.
Oui,
bref,
oui.
Kejman se saisit de lui-même du dossier. Il envoie Maître D'Artevel chercher le frère de Malik à l'aéroport. Et lors de votre première rencontre avec le frère de Malik, en tout cas votre personnage, vous lui demandez de porter plainte et vous lui promettez de l'aider. Porter plainte, pourquoi ? Dans quel but ?
C'est à moi que vous demandez ça ou c'est à l'avocat ?
À vous et à l'avocat. À vous, pourquoi votre personnage veut que la famille porte plainte et dans quel but ?
J'aimerais bien le savoir. J'aurais bien aimé comprendre à l'époque. Mais moi, je ne me suis pas posé la question.
Moi, j'ignorais totalement.
Ouais,
moi, je voyais
aussi.
Les faits et j'ai pensé que c'était la famille qui avait demandé à l'avocat et non pas la famille, non pas l'avocat qui demande à la famille de porter plainte. Alors, je me tourne vers vous, Antoine Chevrolier.
Antoine a sûrement la réponse.
Non, mais en fait, tout simplement parce que c'est dans l'ordre des choses, c'est-à-dire de porter plainte. Ils ont essayé de porter plainte très rapidement. La famille a essayé de porter plainte très rapidement. Ils n'ont pu le faire que le lundi 8 décembre. Mais voilà, ça a été dans l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la famille s'est mise en contact avec Georges Kejman, Georges Kejman leur a fait une sorte de...
Non, dans votre série, j'ai vu le premier épisode, on a l'impression que c'est Kejman qui contacte la famille et non pas la famille
Kejman. Bien sûr.
C'est la stratégie.
C'est la stratégie. En l'occurrence, il y a eu des intermédiaires, mais puisque Georges Kejman et encore une fois Maître D'Artevel ont très rapidement défendu la famille, il y a eu un intermédiaire qu'on ne montre pas, mais très rapidement, ils se sont positionnés pour défendre la famille.
Alors, il faut qu'on comprenne le contexte, parce que le contexte politique de l'époque, c'est que Georges Kejman est un proche de François Mitterrand.
Oui.
François Mitterrand est à l'Élysée, mais il ne dirige pas le pays, c'est la cohabitation et c'est Jacques Chirac.
Tout à fait.
Et on ne peut pas comprendre l'événement si on ne sait pas que c'est Jacques Chirac qui est à Matignon.
Tout à fait. Première cohabitation, donc...
Est-ce que cette prise de pas de pouvoir, mais cette implication de Georges Kejman, c'est une espèce de caillou dans la chaussure de Jacques Chirac pour le déstabiliser alors qu'il dirige le pays ?
Ça, je peux pas l'affirmer.
Vous en pensez quoi ?
J'en suis... Très sincèrement, j'en suis pas convaincu. Mais qu'il y ait un lien ou non, j'en suis pas convaincu.
Comment ça se passe ensuite ? Parce que ça ne raconte pas que cette soirée avec les voltigeurs. Il y a trois histoires. Il y a l'histoire de la famille Ousekine, il y a l'histoire de Malik, il y a l'histoire des voltigeurs. Et ce qu'on en fait après et comment justice est rendue ? Kad Merad, Antoine Chevrolier, c'est une nouvelle série. Ça arrive sur Disney+, ça s'appelle Ousekine et c'est aussi sur Europe 1. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Kad Merad, comédien, faut-il le répéter, Antoine Chevrolier, vous êtes réalisateur.
Répète-le.
Vous êtes à l'antenne. Vous êtes sur Netflix, c'est Kad Merad qui me trouve.
Non, sur Disney+.
Plus. Disney+. Plus.
Allez, ça y est.
Une nouvelle série, voilà, j'aurais dû le noter, je ne me le suis pas noté, je me note toujours ça. Sur Disney+, une nouvelle série, c'est en 4 épisodes, ça s'appelle Ousekine et ça revient sur les événements tragiques de 86, la mort de Malik Ousekine, ce jeune étudiant. C'était à l'occasion, pendant ou à côté, en marge des manifs anti-Devaquet. Y a des scènes absolument incroyables. Interrogatoire surréaliste du grand frère de Malik, s'appelle Ben Amar. Il est interrogé à l'IGS par deux jeunes policiers. Il est convoqué. Il n'a plus aucune nouvelle de son frère. Les portables n'existent pas, évidemment. Il pense qu'il va apprendre la vérité sur la disparition de son frère. Il ne sait pas encore si cette disparition est une mort. Et là, c'est lui qui est interrogé. Il y a réellement eu cet interrogatoire qui s'est déroulé ainsi. On lui demande si son frère a des problèmes de drogue, cannabis, héroïne, s'il a une addiction à l'alcool, s'il fait de la politique, s'il milite.
Il a des liens avec les catholiques libanais.
Voilà, les phalanges libanaises. On va raconter l'histoire de la Bible. Et l'interrogatoire glisse tout d'un coup, on se met à le tutoyer. On lui dit, qu'est-ce que tu sais sur ton frère ? Ça s'est vraiment passé comme ça.
Ça s'est passé comme ça, ça a été en deux temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a effectivement cette forme d'interrogatoire. Ben Amar s'est déplacé à l'IML pour avoir des informations autour de la disparition de son frère. Et puis voilà, ça a basculé dans un premier temps sous forme d'interrogatoire. Et puis dans un second, ce qu'on montre d'ailleurs dans la série, on a Cassini, donc notre personnage, qui vient et qui l'annonce avec une forme d'empathie et avec une forme de douceur et raconte effectivement ce qui s'est passé et le décès de Malik Houssekine.
Il cherchait tous les moyens de il cherchait par tous les moyens de
à ce que ça ne fasse pas une affaire.
Voilà, que ça ne devienne pas une affaire, donc il fallait qu'on trouve la faille. Et la faille, ils vont la trouver d'ailleurs à cause ou grâce à Ben Ammar, le frère qui va annoncer que son frère avait des problèmes de reins et donc tout d'un coup ils sont oh la vache, tain, j'ai du mal.
Embarqué
dans la... Parce que je l'ai vu, je viens de voir la série, moi, tu vois.
Alors, moi, je me souvenais encore de cette phrase par cœur de Robert Pendreau. Mm-hmm. Le ministre de l'Intérieur à l'époque était Charles Pasqua. Mm-hmm. Et Robert Pendreau était secrétaire d'État à la sécurité. Mm-hmm. Je cite ça de mémoire. Il avait dit une phrase, en tout cas celle qui circulait, c'était « Si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais de faire le con la nuit. » Il y avait des pots, il y avait des comptes. Cette phrase avait fait bondir beaucoup de gens, à commencer par les étudiants. Mais aussi, il y avait des parents, c'était les premiers éléments de langage. Il y avait des parents de droite, mais pas seulement, qui étaient d'accord avec Pendreau. Si on a un fils sous dialyse, on ne laisse pas faire le con la nuit.
Oui, en l'occurrence, ça n'empêchait pas Malik de vivre tout à fait normalement, alors même qu'il était sous dialyse. Donc cette phrase, je peux comprendre qu'à un endroit, elle ait pu évidemment choquer. Malik était sportif, était vivant, il avait une vie tout à fait normale.
Et surtout, il ne participait pas à la manifestation. Il sortait d'un concert de Nina Simone.
Exactement.
Il a été embarqué dans le flot des
voltigeurs. Attends, les gens ne savent pas ce que sont les voltigeurs. Pardon, je vous ai tutoyé. C'était des policiers qui étaient à moto. Il y avait un type qui conduisait la moto et derrière lui, il y avait un gars avec un bâton. Exactement. Il était chargé de mettre des coups dans les côtes, dans les genoux, sans cette trace pour que les étudiants rentrent chez eux.
Exactement.
C'est ça. Voilà. Il s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Mmh. Voilà, c'est...
Est-ce que tous les détails sont authentiques ? Je veux dire, quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, il y a son dircab ou l'huissier qui veut frapper et réveiller Robert Pendreau qui dort dans son bureau. Il a une technique bien à lui pour ne pas dormir. C'est vrai, ça fait rire Cadmeyrad.
Oui, tout à fait. Non,
racontez la technique.
Encore une fois, c'est de la fiction. C'est-à-dire qu'on part d'une base réelle, mais ça n'est pas un documentaire. Donc on insère de la fiction. L'anecdote dont vous parlez, c'est effectivement comment caractériser le personnage de Pendreau, et donc Dali appelait ça en fait la sieste de la cuillère, et en fait il tient une cuillère dans les doigts, il dort assis sur son fauteuil, il a une cuillère entre les doigts, et lorsque la cuillère tombe dans un plateau en argent, ça le réveille, et donc
c'est 5 minutes à peu près, c'est des micro-siestes, c'est génial. Mais ça c'est inventé, évidemment.
Je regrette, j'ai bien fait de le demander.
Je vais l'essayer.
Trois arches narratives, je l'ai dit. Le temps présent qui raconte le combat de la famille de Malik. La fameuse nuit du 5 au 6 décembre 86. L'histoire des Houssekine qui arrivent en France dans les années 60. Pourquoi avoir choisi un périmètre aussi large ? Et j'imagine que c'est ce qui vous a intéressé, que ce n'était pas seulement un fait divers, Cadmeyrad.
Ah, mais ce qui m'a intéressé, c'est tout ce qu'il y a autour de cette histoire. Tout autour du moment du drame. C'est la famille. L'origine de la famille. On voit Malik petit, on le voit en Algérie, on voit son père, on voit sa famille. C'est ça aussi qui est intéressant.
J'ai complètement oublié de parler de quelque chose, je ne l'avais pas noté dans mes questions, mais je l'ai vu et je l'ai appris parce que ça, je ne le savais pas. Il avait une Bible. Évidemment, les policiers cherchent à savoir quelle est cette Bible, que faisait cette Bible avec Malik Houssekine ce soir-là.
Tout à fait.
Et ça, c'est vrai.
Parce que sa famille est musulmane, faut-il le dire.
Oui. Tout simplement parce qu'il était... Bon, c'était quelqu'un de très curieux, Malik, et puis de très spirituel au sens large. Il avait cette Bible tout simplement parce qu'il était rentré en contact avec un père qui s'appelait le père des Jobert. Et lors de leur première rencontre, qui était quelques semaines avant le drame, il lui avait donné cette Bible qui appartenait à la maman du père. Et donc il était catéchumène, comme on dit, c'est-à-dire qu'il était dans un process de recherche spirituelle autour du catholicisme.
Pour se convertir éventuellement. Mais cette Bible, d'ailleurs, c'est un détail qui est marquant dans l'histoire, parce que c'est comme ça que les policiers se disent, mais bon, qu'il a des liens avec des chrétiens libanais.
Parce qu'à l'époque, tous les terroristes n'étaient pas musulmans. Il y avait aussi des terroristes chrétiens
libanais
à Beyrouth.
À l'époque,
Ils disent, tiens, c'est peut-être un fil à tirer pour justifier l'agression.
C'est exactement. Ça.
Ça s'appelle Oussekine, c'est une série en 4 épisodes, c'est sur Disney+, ça démarre aujourd'hui.
Et c'est grandiose.
C'est avec Kadmera, je suis d'accord. Il y a des comédiens, j'ai pas cité tout le monde.
Il y a des comédiens sont merveilleux. Laurence Stoker, Toufik Jalab, Mouna Soualem, Nedra Ayadim, Yamabas, Yamabas évidemment.
Olivier Gourmet.
Mathieu Demi, Gilles Cohen.
Mathieu Demi en flic, je l'ai pas reconnu. Et Olivier Gourmet, il est absolument formidable.
Il y a des acteurs extraordinaires.
Antoine Chevrolier, et parmi les acteurs extraordinaires, il y a Kadmerad qui nous a fait l'honneur.
Non, c'est gentil, moi.
C'était juste pour faire une chute parce que là, je dois enchaîner. C'est juste pour vous dire ça, Kadmerad. Vous reviendrez. Culture Média continue. Merci, messieurs.
Merci
Culture Média continue après les infos de 10h. Les télescopages de Bruno Donnet. Il a regardé BFM TV hier après-midi et il a cru que la reine d'Angleterre était morte. Notre invité, c'est Jacques Gomblin, comédien pour une comédie qui sort en salle aujourd'hui, récompensée à l'Alpe d'Huez. Ça s'appelle On sourit pour la photo. Et puis dans les indispensables de la littérature britannique avec Nicolas Caro. Et puis Stéphanie Loire va nous présenter les grosses sorties d'albums ce vendredi. L'humoriste imitateur Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. A tout de suite sur Europe 1.